Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Voici un nouvel épisode de notre balado Le Service Politique, avec aujourd'hui Agathe Lambray qui suit notamment la campagne d'Emmanuel Macron, ou la future campagne d'Emmanuel Macron, puisqu'il n'est toujours pas officiellement candidat. Et justement, on va évoquer cela avec Agathe. Les plans pour l'annonce de la candidature sont chamboulés par la situation internationale. Et cette annonce de candidature va être probablement repoussée de quelques jours. On va parler de ça avec Agathe. Nous sommes le lundi 21 février et nous sommes donc à 62 jours du choix des Français. Salut Agathe.
Salut Philippe.
Alors donc nous sommes lundi 21 février, et sans trahir de secret d'État, c'est cette semaine que le président de la République devait se déclarer
pour Exactement. Sa
campagne de réélection. Et la situation internationale est en train de tout chambouler, c'est ça?
Exactement, oui. Enfin, cette semaine était clairement le scénario privilégié. Emmanuel Macron avait prévu d'aller au Salon de l'agriculture en tant que candidat. Mais évidemment, il avait plusieurs options. Et la crise ukrainienne s'est aggravée ces derniers jours, ce qui a fait que l'on comprend clairement que le chef de l'État temporise pour l'instant. Et ce qui se dessine aujourd'hui, ce serait plutôt une candidature la semaine prochaine, celle du 28 février.
Là, ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu de la nuit, enfin d'abord, le président de la République a multiplié les conversations téléphoniques avec les présidents russes, ukrainiens et américains pendant plusieurs heures. Il y a eu aussi le premier ministre britannique.
Mmh. Il y a eu 6 appels en tout, dont 2 appels avec Poutine.
Et au milieu de la nuit, 2h du matin, communiqué de l'Élysée, laissant entendre qu'il avait obtenu l'accord, en tout cas un accord de principe, de Vladimir Poutine et Joe Biden pour le principe d'un éventuel sommet. Tout ça, c'est très hypothétique parce que c'est en train de bouger, ça peut bouger d'heure en heure. Mais au fond, on voyait aussi l'idée que la semaine prochaine pouvait être un moment important du point de vue diplomatique. Et là, on se dit, il y a quand même une limite, c'est que le président ne peut pas être candidat au-delà du 4 mars à 17h. Et donc, en fait, dans les quelques jours qui restent, puisque 4 mars à 17h, c'est la fin de semaine prochaine, il va avoir un calendrier diplomatique intense, quoi qu'il arrive, que la situation en Ukraine se stabilise ou au contraire qu'elle s'aggrave. Et donc on ne voit pas bien comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser pour faire non seulement l'annonce de candidature, mais les suites qu'ils avaient prévues. De toute façon, ça sera chamboulé.
Et c'est sûr que ce sera compliqué. Maintenant, ça fait depuis plusieurs jours que le calendrier diplomatique est intense et qu'Emmanuel Macron consacre 80% de son temps, je pense, à gérer la situation à l'international. Il ne veut pas se caler en fonction d'un sommet dont on ignore la date.
Bien sûr.
Et un sommet qui pourrait même ne pas avoir lieu.
Absolument.
Et un sommet, par ailleurs, entre Poutine et Biden. Un sommet auquel Emmanuel Macron ne participerait pas.
Oui, mais il ne peut pas se déclarer ce jour-là ou
non, c'est sûr.
Mais en fait, tous les regards sont braqués sur...
Ça semble assez compliqué, surtout que c'est lui qui est à l'initiative de cette rencontre. C'est lui qui a proposé cette rencontre. Donc autant en tirer les fruits et se faire discret ce jour-là. C'est un peu bizarre d'annoncer sa candidature. En fait, une candidature, c'est une succession de paramètres. Ça fait un moment que l'Élysée nous en parle et il cherche la bonne fenêtre de tir. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron avait l'option de cette semaine, mais certainement aussi une option la semaine prochaine, parce que c'est aussi une question de moment, de feeling. Il faut qu'Emmanuel Macron le sente, il faut que les planètes s'alignent. Et on voit qu'à cause de l'Internet, en ce moment, il n'y a pas un jour où les planètes sont vraiment alignées, en fait.
Qu'est-ce qui était prévu, si ça avait eu lieu cette semaine? Qu'est-ce qui était prévu? Une annonce autour de mardi-mercredi, c'est ça? Le moment de l'annonce suivi ensuite... D'abord, ça se serait passé comment, sur le papier, si ça avait été cette semaine?
Alors, moi, je pense que Emmanuel Macron se serait déclaré à l'occasion d'un déplacement, peut-être mardi ou peut-être mercredi, mais effectivement, il y avait l'idée que Emmanuel Macron soit candidat pour le dîner du CRIF jeudi soir et surtout pour le salon de l'agriculture samedi.
Avec peut-être une interview dans la presse quotidienne régionale.
Oui, alors en fait, de toute façon, la déclaration de candidature était censée se faire via plusieurs vecteurs et est censée se faire via plusieurs supports, un peu sur le terrain à l'occasion d'un déplacement. Emmanuel Macron, par exemple, exemple, pourrait faire un petit discours pour expliquer pourquoi il est candidat. Mmh. En parallèle, une interview publiée dans la presse quotidienne régionale et en plus, un message, une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Ce ne sera pas forcément les trois, mais c'est possible. Pourquoi ? Pour toucher un maximum de monde et surtout pour avoir le temps, notamment le support de la presse écrite, pour avoir le temps d'expliquer pourquoi il est candidat, parce que c'est tout de même le plus important. Sa candidature ne fait pas vraiment de doute. La question, c'est de savoir pourquoi il se représente, en fait.
D'ailleurs, le déplacement, l'annonce au cours d'un déplacement en province, ça rappelle Jacques Chirac en 2002, déplacement à Avignon.
Où il répondait à la maire d'Avignon.
Absolument. Et une question. Jacques Chirac, en 1995, enfin plutôt en 1994, à la fin 94, il se déclare dans une interview à La Voix du Nord, donc presque quotidien régional. Donc c'est
ce serait un mix. Il s'inspire effectivement de Jacques Chirac, qui est régulièrement cité par les macronistes, mais celui qui est le plus cité, mais dont la réponse se rapproche de celle de Jacques Chirac, c'est François Mitterrand, 1988, qui répond à un simple oui à la question des journalistes sur Antenne 2. Il lui demande « Êtes-vous candidat à votre élection ?» Et François Mitterrand répond très sobrement, il minaude presque un petit oui. Et c'est vrai que ce oui mitterrandien est cité souvent comme référence, même si ne sera pas qu'un moment léger et ce ne sera pas qu'un simple oui. Il faut qu'Emmanuel Macron explique pourquoi.
Jacques Chirac et François Mitterrand, qui sont les deux derniers présidents à avoir été réélus, puisque Nicolas Sarkozy avait échoué en 2012 et François Hollande n'a pas pu se représenter. La différence, comme on en parlait ce matin, c'est que François Mitterrand, en 1988, avait réussi, parce qu'il était très habile et florentin, à maintenir une sorte de suspense jusqu'au bout. Et des gens se demandaient, est-ce qu'il va vraiment être candidat? Alors qu'effectivement, il se préparait depuis longtemps pour être candidat. Mais là, personne n'a doute sur Emmanuel Macron.
Tout en plus qu'Emmanuel Macron lui-même a tué ce suspense en expliquant dans Le Parisien, il y a un moment déjà, qu'il n'y avait pas de suspense, qu'il en avait envie.
Bon, la date, on ne sait pas exactement quand ce sera. Qu'est-ce qui se passe après, ou plutôt, il est candidat, il fait une interview dans la PQR, il explique pourquoi il est candidat. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tout est prêt, l'équipe de campagne est prête, le siège de campagne est prêt, tout est prêt.
Tout est prêt, le plan de bataille est prêt. On sait qu'il y aura déjà trois meetings, ce sera une campagne très courte. Un premier meeting à Marseille, autre meeting potentiellement gigantesque, peut-être à l'Arena 92 à La Défense. Si ça a lieu, c'est énorme parce que
c'est énorme, c'est 30 000 places.
40 000 places. Hier, quelqu'un me disait en rigolant, ce sera un concert de Madonna. Donc maintenant, il y a une autre piste, c'est l'Arena Bercy. Mais si c'est l'Arena 92, si c'est l'Arena 92, ce serait, je crois, peut-être même inédit, un meeting de cette ampleur. Ça ressemble plus à un match de foot.
Nicolas Sarkozy ou le RPR faisait des meetings à 50 000 personnes à Porte de Versailles ou à Villepinte.
C'est vrai, mais ça fait depuis longtemps qu'on n'en a pas vu. Et ce serait vraiment, dans cette campagne en tout cas, inédit et la plus grosse démonstration de force.
Marseille, si c'était le premier meeting, ça serait quoi, début mars?
Ah bah oui, on suppose, puisque Emmanuel Macron, de toute façon, a jusqu'au 4 mars pour se déclarer. Ça pourrait être dans la foulée. Maintenant, sur la date, pas de certitude.
Marseille, ça a plusieurs intérêts. D'abord, on sait que c'est une ville qu'il aime beaucoup.
Oui, c'est sa ville de cœur.
Sa ville de cœur, qu'il a choisie. Il est supporter de l'OM. Ça a aussi un sens politique parce que c'est... il avait passé du temps à plusieurs reprises, notamment il y a quelques mois, il a passé 3 jours de suite à Marseille. Et au fond, je vais paraphraser, mais il avait dit dans Zadig l'année dernière qu'il voyait à travers Marseille, d'une certaine manière, un laboratoire de ce que peut être la France.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, Marseille, c'est surtout le laboratoire de sa politique, en fait, de la politique qu'il a lancée ces derniers mois, c'est-à-dire une politique au plus près du terrain et sur mesure selon les territoires, avec un plan global en fonction du territoire. C'est ce qu'il a commencé à Marseille. Il a parlé de transport, d'éducation, d'économie. Ouais. Et c'est une ville, effectivement, dans laquelle il s'était engagé à revenir pour suivre ses engagements, parce que ça fait aussi partie de la méthode Macron, le suivi des engagements. J'ai fait des promesses, je les tiens.
Et on s'était demandé, d'ailleurs, s'il pourrait se déclarer à Marseille, depuis Marseille, dans un déplacement à Marseille.
Oui, effectivement, c'était une rumeur.
Et puis, il y a un intérêt électoral, c'est que le président de la région PACA, qui a gagné l'année dernière au régional, Renaud Muselier, avec le soutien de La République En Marche, et ça avait été tout un feuilleton, puisque le parti des Républicains était furieux, devrait annoncer son soutien à Emmanuel Macron. Enfin, ça fait plus beaucoup de doutes. Mmh. Même la présidente de la métropole de Marseille, Martine Vassal, qui est elle aussi des Républicains, pourrait aussi soutenir Emmanuel Macron. Et donc, ça serait une manière d'illustrer à Marseille, au début de sa campagne, le rassemblement, enfin, la poursuite, finalement, de son ouverture de 2017 à la droite, parce que la campagne va se passer notamment autour de l'électorat du centre-droit.
Oui, totalement. Ouais. C'est deux profils clairement Macron compatibles. Et Emmanuel Macron continue à fracturer la droite. Il pense que l'élection jouera à droite, même s'il n'oublie pas du tout la gauche. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans l'électorat, aujourd'hui, le socle d'Emmanuel Macron, il y a quasiment 50-50. Il y a beaucoup de gens de droite, beaucoup de gens de gauche. Donc il faut vraiment qu'il ménage tout le monde et qu'il marche sur ses deux jambes. Mais clairement, ces derniers temps, on a vu qu'il y avait plus de ralliements issus de la droite que de ralliements issus de la gauche.
Et d'ailleurs, ce matin, il y a un papier très intéressant, un reportage dans Libé avec ces électeurs de gauche qui malgré telle ou telle réserve sur le quinquennat, s'apprête à voter Emmanuel Macron dès le premier tour le 10 avril. Mmh. Une fois qu'il sera candidat, une fois qu'il aura lancé tout ça, une fois qu'il aura eu le premier grand meeting à Marseille, est-ce que c'est un programme très détaillé ou au contraire, deux, trois idées générales sur ce que pourrait être la France dans les cinq prochaines années? C'est plutôt d'être sur un... sur des thèmes généraux, la santé, l'éducation,
ouais, alors,
la sécurité.
Oui, trois thèmes principalement, santé, éducation, travail, même si bien sûr travail, la sécurité est très importante, mais santé, éducation, travail, l'entourage du président martèle ces thèmes, avec peut-être deux idées fortes, deux idées totems qui seraient martelées, des mesures très concrète, sur le modèle de la suppression de la taxe d'habitation qui est citée comme référence aujourd'hui. Donc trois grands thèmes, deux mesures très fortes, et puis pour les décliner...
Des mesures de pouvoir d'achat plutôt
économique. C'est possible, des mesures de pouvoir d'achat ou des mesures pour le logement. Ouais. Je ne sais pas combien de mesures vont être déclinées précisément, mais en tout cas, ce qui semble acquis, c'est qu'il y aura au moins deux mesures vraiment très fortes, des mesures totem. Mais il n'y en aura pas que deux. Mais ce ne sera pas un inventaire à la Prévert. Ce ne sera pas un programme très dense, même si un livret programmatique va être envoyé dans les boîtes aux lettres en mars. L'idée, c'est vraiment d'imposer ces thèmes et quelques mesures fortes, voire un peu clivantes, pour pousser les autres à se positionner et de marteler ces idées sur le terrain. Parce qu'en fait, il n'y aura que trois meetings, c'est pas beaucoup. L'essentiel de la campagne d'Emmanuel Macron, ce sera un candidat sur le terrain, au milieu des Français. On nous parle à la fois du grand débat national de 2019 et en même temps de l'itinérance mémorielle de 2018. En fait, Emmanuel Macron va multiplier les déplacements et fera aussi certainement des sortes de débats thématiques avec les Français. C'est pour ça qu'on fait référence au grand débat national.
L'itinérance mémorielle, il faut le rappeler, c'est des quelques jours avant les commémorations du centenaire de la Grande Guerre.
Ouais.
Il avait fait tout un circuit à travers le nord
voilà,
et l'est
dans
de
le
la
nord-est,
France.
Ouais.
Au contact, des bains de foule, mais aussi des contacts avec des acteurs de la vie locale. Et il se trouve, c'est un hasard, mais c'était quelques jours avant le déclenchement des Gilets jaunes, et on avait perçu comme signaux faibles quelques échos de la colère du pays dans cette itinérance mémorielle.
C'était les prémices des Gilets jaunes. Ouais. En fait, ce qui était censé être une rencontre entre le président et son peuple a failli tourner au fiasco, parce qu'il y avait tellement de colère, tellement d'inattendus, tellement de confrontations avec les Français qu'il interrogeait sur les retraites, sur plein de sujets comme ça. C'est pas totalement ce qui avait été envisagé à la base.
J'en parlais avec un conseiller politique d'un ministre important du gouvernement qui pense que le président est en situation favorable pour être réélu et clairement le favori de cette élection, mais néanmoins disait attention, on va entrer dans une zone de turbulence. Ça va pas être aussi. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as 25% dans les sondages que ça va être cette campagne va se faire en toute quiétude, parce que l'entrée dans la campagne peut secouer un peu, et puis il va se retrouver à devoir répondre à des questions plus nombreuses qu'aujourd'hui sur son bilan, sur ce qu'il pourrait faire. La réforme des retraites, c'est quoi? Âge de départ à la retraite, 64 ans, 65 ans. Tout ça, il va devoir préciser. En tout cas, il va être interrogé sur tous ces sujets dans les prochaines semaines. Et donc, il peut y avoir des moments de turbulence. Il peut y avoir des surprises.
Bien sûr. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, d'après ce que l'on m'a dit, ne pense pas que ce sera facile.
Oui.
Certes, il y a des macronistes dans son entourage qui pensent depuis 6 mois déjà qu'ils ont gagné l'élection. Il y en a certains, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et dans l'entourage du président, on fait plutôt preuve d'humilité. Oui. Et voilà, non, il peut y avoir des imprévus dans une campagne. Il y a toujours des surprises. Quelle pourrait être la surprise aujourd'hui? On ne sait pas. Et on ne sait même pas, finalement, face à qui Emmanuel Macron sera au second tour, s'il est au second tour. Enfin, pour l'instant, ça joue dans un mouchoir de poche à droite et ça pourrait changer beaucoup de choses. Si Emmanuel Macron se retrouve face à Valérie Pécresse, on sait que le second tour serait potentiellement beaucoup plus serré que face à Éric Zemmour. Donc, de toute façon, et c'est ça qui est difficile aussi, et c'est notamment pour ça qu'Emmanuel Macron repoussait la date de sa candidature, qu'il n'avait pas intérêt à se déclarer plus tôt, c'est qu'il y a encore des inconnus. Il ne sait pas contre qui se battre. Et c'est très difficile d'entrer en campagne sur un angle précis quand on ne sait pas quel est son adversaire.
Et d'ailleurs, la campagne ne va pas seulement se déterminer autour de la candidature du président dans les prochaines semaines. On voit que là, Éric Zemmour est plutôt sur une progression régulière ces dernières semaines. Valérie Pécresse est plutôt sur une chute qui s'est accélérée après le meeting du Zénith. Et on va voir. Mais si se dessine un second tour... Macron-Zemmour dans les prochaines semaines dans les sondages, ça va donner une tonalité à la campagne qui ne sera pas la même que si c'est Valérie Pécresse qui reprend un peu d'allant. Et franchement, si Éric Zemmour est en situation dans tous les sondages d'être qualifié au second tour comme ça semble être l'indiqué maintenant, la campagne du président, elle va être aussi déterminée par ça. Il va être sans cesse interrogé sur Éric Zemmour.
Ouais.
Et soit il tape, et on va dire vous installez le match face à lui parce que vous voulez l'avoir face à vous, ou soit il ne le tape pas, il dira mais pourquoi est-ce que vous êtes indulgent avec lui?
Exactement, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron se prépare déjà à affronter potentiellement Éric Zemmour. Il est extrêmement préparé, c'est un très fin stratège. Tout est très préparé, il n'en parle quasiment jamais, mais évidemment qu'il a la tête à sa campagne depuis un moment. Il parle de plus en plus politique maintenant en privé, et tout est prêt, la stratégie est prête, les équipes sont prêtes, il ne manque plus que la déclaration.
Et les équipes, d'un mot, le directeur de campagne ?
Donc directeur de campagne, a priori, Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture,
un proche historique d'Emmanuel Macron,
très
longtemps,
proche d'Emmanuel Macron.
Il était son conseiller à Bercy.
Exactement. C'est un pré-mormon. Vous savez, les mormons, c'était la bande qui accompagnait Macron en 2017. Hier, on me disait de Normandie, c'est un pré-mormon. On l'appelle aussi Saint-Jean ou Hugh Grant. Enfin, il a beaucoup d'adjectifs. C'est un peu le genre idéal. En tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu dans la Macronie.
Est-ce qu'il a le poids politique, parce que directeur de campagne, surtout d'une campagne où il y a à la fois des gens de gauche, des gens de droite, des gens qui sont là depuis longtemps, des gens des nouveaux venus, c'est pas facile à gérer. Il a le poids politique pour gérer une équipe comme ça ?
Il a déjà la confiance du président, et ça donne du poids politique, même quand on n'en a pas. Et ensuite, il a fait ses preuves au ministère de l'Agriculture avant d'être nommé. C'est vrai qu'il y avait des doutes, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement discret, un taiseux, un profil de techno à la base. Et
en fait, ça avait été difficile pour lui au ministère du Logement avant ?
Oui, voilà. Disons que c'est pas là qu'il s'est illustré. Ouais. En revanche, au ministère de l'Agriculture, il a fait ses preuves. Et puis, de toute façon,
c'est un ministère très politique.
Oui, puis on ne lui demande pas d'incarner. L'incarnation, ce sera Emmanuel Macron. On lui demande d'organiser la campagne et puis surtout de faire le lien entre les différentes écuries.
Ouais.
Et ça, ce n'est pas évident.
Non, c'est pas facile.
Et Julien de Normandie, ayant l'avantage d'avoir connu les Mormons, enfin, d'être venu très tôt, mais aussi de bien s'entendre avec les nouveaux venus, il peut être celui qui fait un peu la synthèse entre tout le monde.
Gabriel Attal, porte-parole de campagne.
Voilà, a priori, Gabriel Attal devrait quitter le gouvernement pour être porte-parole de la campagne du chef de l'État.
Et qui d'autre? Parce qu'on voit beaucoup, et on sait que Clément Beaune, par exemple, est proche du chef de l'État. Est-ce qu'il pourrait rentrer dans le dispositif? Sébastien Lecornu, qui lui vient de la droite, a aussi peut-être pas très connu du grand public, mais joue un vrai rôle politique avec les élus qui viennent de la droite notamment. Ils auraient quelle place dans le dispositif?
Clément Beaune est proche du chef de l'État. Il a un poste important en ce moment
aux affaires européennes.
Exactement, aux affaires européennes. Donc c'est un peu délicat de le faire sortir du gouvernement. Peut-être en revanche Sébastien Lecornu. Pendant la présidence française de l'Union européenne, pardon. En revanche, Sébastien Lecornu, qui depuis des mois maintenant supervise les comités d'élus locaux, qui fait le lien avec les élus locaux, eh bien lui, il pourrait aussi sortir du gouvernement pour être une sorte de monsieur politique d'Emmanuel Macron. Il pourrait seconder Julien de Normandie sans avoir forcément de titre pour gérer les élus. Et puis bien sûr, il y a Clément Leonarduzzi, le conseiller en communication d'Emmanuel Macron, qui lui, en fait, va continuer à faire ce qu'il fait aujourd'hui, mais de la campagne. Et lui aussi, c'est un rôle important, notamment pour mettre du lien, parce qu'au QG, faut pas sous-estimer le fait qu'il y a 50 groupes et surtout des gens qui viennent de tous les horizons. Et entre les anciens, c'est incroyable à quel point dans cette campagne, les anciens, les mormons ont une influence. Et en fait, le contact n'est pas toujours simple avec les nouveaux. Et Leonarduzzi, sa mission aussi pas officielle, c'est aussi de mettre du lien dans tous ces gens qui n'ont pas forcément vocation à travailler ensemble.
On ne sait pas ce que sera la situation internationale dans les prochaines semaines, donc on ne peut pas présager du calendrier du président d'ici l'élection. Mais est-ce que l'idée, c'est que au fond, il se consacre à 80% à ses fonctions présidentielles et qu'il fasse quelques déplacements ici ou là, ou que ce soit qu'il y ait des journées entières consacrées à la campagne? Est-ce qu'il va faire des demi-journées de président et une demi-journée de candidat? Comment ils vont organiser tout ça? C'est jamais facile. Nicolas Sarkozy faisait, en gros, son activité à l'Élysée jusqu'en début d'après-midi, puis ensuite partait faire des meetings le soir, parce qu'il avait fait beaucoup de réunions publiques. Comment ça va se passer?
Là, ça va être encore plus compliqué, parce que Emmanuel Macron a au moins trois casquettes. Il est président de la France, président du Conseil de l'Union européenne et candidat à sa réélection, et tout cela dans un contexte d'une possible guerre aux portes de l'Europe. Donc en fait, je pense qu'il va surtout s'adapter, et ça fait depuis un moment qu'on nous dit qu'il ne pourra pas être 100% candidat. Évidemment que sa journée sera entrecoupée par des obligations liées à sa fonction de président, sa fonction de président du Conseil de l'Union européenne, sa fonction de médiateur dans cette crise, dans cette crise entre la Russie et l'Ukraine.
Ça veut dire qu'il ne va pas faire le tour des matinales radio et télé pour commenter l'actualité politique du jour?
Ça m'étonnerait qu'il le fasse tous les jours, en tout cas. Il y aura des plages qui seront réservées à son rôle de candidat, mais c'est possible que... C'est possible, par exemple, qu'à l'occasion d'un déplacement dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, il en profite pour coupler ça à la visite d'un village à côté. C'est pas impossible qu'il fasse les deux. Maintenant, il mélangera pas non plus les genres quand il sera avec sa casquette de...
Il va pas faire le tour de tous les départements. Je crois que Nicolas Sarkozy, en 2012, qui était candidat en février, donc il avait deux mois de campagne, avait fait quasiment le tour des départements, enfin, en tout cas, avait fait des dizaines de départements pendant cette campagne. Ce ne sera pas le cas d'Emmanuel Macron cette fois-ci.
Il a prévu de faire beaucoup de déplacements, mais je ne sais pas s'il pourra, en aussi peu de temps, faire tous les départements, sachant qu'il y a d'autres contraintes qu'on évoquait à l'instant.
Bon, on en reparlera dans un prochain épisode, parce que tout ça va évoluer, effectivement. Il y a une petite possibilité qu'en fait... Que ça s'accélère parce que, je ne sais pas, parce qu'il dirait justement qu'il faut le faire cette semaine, parce que la semaine prochaine, ça sera encore très bouché sur le plan international.
Là, ce que j'entends, c'est qu'on reste plutôt sur la semaine prochaine. Maintenant, on ne sait jamais. Et Emmanuel Macron aime surprendre. La surprise fait partie intégrante de sa stratégie. Et peut-être qu'il pourrait vouloir aussi prendre tout le monde de court et se déclarer vendredi, même si là, vu le contexte, sincèrement, c'est compliqué.
Merci Agathe.
Merci Philippe.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et puis, laissez un message au passage sur vos plateformes de téléchargement. Ça permet de faire connaître ce balado. Merci.